الشرقية عيونا روزية حبك من قلبي يا انتي عيني حبك من قلبي يا انتي عيني بنت الشرقية
Bonjour. Comme chaque mercredi de 18h à 19h sur Radio Galère, débute l'émission Une heure en Palestine. Avec vous aujourd'hui, Samar Saoudi, membre du groupe local de l'AFPS et de BDS Provence. Cette semaine, je vous invite à écouter deux grands reportages sur la Palestine. Mais avant ça, je vais commencer par vous informer sur les différents événements que nous organisons dans cette région de Sud. En premier, Venez voir le stand de route de Zaatar avec des créations artisanales palestiniennes du 2 au 12 décembre à Cassis. Ce stand, avec les différentes créations artisanales liées à la période de Noël, feront partie de l'exposition de Crash sur le thème de pêcheurs dans les salles voûtées de la mairie donc de Cassis. L'inauguration officielle a été faite le samedi 3 décembre à 16h. Aussi, le 15 décembre, à 14h30, l'association Loisirs et Solidarité des Retraités Marseille, vous invite à assister à la conférence sur les chemins de la Palestine. Et ce, à la Maison du Peuple de Vauban, 109 boulevard de Vauban, 13006 Marseille. Vous pouvez prendre donc le bus 49 ou 60 à l'arrêt Fort du Sanctuaire. Les participants au voyage de Palestine viendront raconter leur séjour et qui s'est déroulé du 13 au 23 octobre dernier, donc moins d'un mois, en Palestine. Par contre, je vous prie de réserver cette date et d'appeler à l'association pour faire les réservations. Aussi, deux poésies de Palestine, donc deux spectacles qui vont être créés par trois artistes marseillais, qui vont nous faire découvrir ou redécouvrir des poèmes de Fadwa, Turqan, Bachir Chalah, Fayyad Ashraf, mais aussi Mahmoud Darwish et autres poètes palestiniens. Vendredi 16 décembre à 19h, et ce à la boutique de 6 rue des Frères Blancard à la Ciotat, mais aussi le 17 septembre à 17h30 à la librairie Transit, donc Transit Librairie, 54 boulevard de la Libération 13001 Marseille. Donc le premier événement, c'est à 19h, c'est à la Ciotat. Donc c'est à la boutique et le deuxième événement donc le 17 décembre à la librairie Transit. Vous pouvez donc nous suivre l'ensemble de ces événements toute l'actualité sur la Palestine sur nos deux pages Facebook, donc la page Facebook Palestine 13 et la page Facebook BDS Provence. Aussi sur notre site internet, juste tapez au moteur de recherche Palestine 13 et vous serez lequel. Comme j'avais dit, je vous ai choisi deux excellents reportages, deux grands reportages qui parlent de l'actualité actuelle sur la Palestine, surtout avec ce qui se passe actuellement avec Salah Hamouri. Vous savez, Salah Hamouri, c'est un avocat franco-palestinien qui est détenu sous le régime de la détention administrative, et ce depuis le 7 mars. C'est-à-dire aucun chef d'accusation, sans aucune possibilité de se défendre, et ce depuis, donc, je répète, le 7 mars. On s'attendait donc à sa libération le 30 novembre parce que la même fois cette détention a expiré. Et à chaque fois, elle a été prolongée. On s'attendait qu'il soit libéré cette fois-ci. Mais à notre surprise, la décision des autorités palestiniennes vient de tomber. ils veulent l'expulser. Donc on attend aujourd'hui, donc, je suis en train d'enregistrer cette émission le 6 décembre. Donc on attend cette décision qui est inacceptable. Donc il y a eu un appel, différents appels au président de la République, différentes autorités françaises, pour qu'elles réagissent fermement auprès des autorités israéliennes et d'agir pour cette décision qui soit annulée. Rappelons-le, Salah est un franco-palestinien et donc il a la nationalité française. Toute sa famille et ses amis sont donc mobilisés pour arrêter cette expulsion. C'est pour cela que j'ai trouvé donc le premier reportage. Le premier reportage parle de des différentes donc des cas des Palestiniens à l'intérieur de donc de la Palestine et ce qu'on appelle Israël. Donc à chacun son identité selon selon sa résidence. Donc le premier reportage c'est le reportage donc de Sami Bouhlifa intitulé 4 Palestiniens une identité. C'est un grand reportage qui nous emmène à la rencontre des Palestiniens. Il y a ceux de Jérusalem-Est, ceux de la Cisjordanie, les Palestiniens citoyens d'Israël, aussi appelés Arabes israéliens, et enfin les Gazaouis. On va voir comment, au cours de l'histoire récente de ce peuple, comment ce peuple a été divisé, déplacé, chassé de sa terre, au point d'avoir différentes identités, différentes cartes d'identité, différents documents au sein de, donc de même territoire. À travers donc, de ces portraits croisés, quatre Palestiniens vont nous parler de leur quotidien sous occupation israélienne au sein de l'État hébreu. Ce grand reportage vient renforcer donc, les différents rapports donc, qu'Amnesty International ou encore Human Rights Watch ou Al-Haq ou même des associations israéliennes ont démontré donc que Israël est un État apartheid. Le deuxième reportage, toujours donc de Sami Bouhlifa, va nous emmener à Jérusalem pour un voyage à travers le temps. Et ce, de l'an 1187, durant les croisades, jusqu'à récemment, donc jusqu'à 1967, et à la conquête de la ville sainte par Israël. Donc c'est près de 800 ans d'histoire qui est marquée par la présence des Maghrébins à Jérusalem. Ce sont généralement des pèlerins musulmans ou des combattants venus jadis d'Afrique du Nord pour grossir les troupes de Saladin et reprendre la ville aux croisés. Les descendants donc marocains, algériens, tunisiens vivent toujours à Jérusalem. Avant l'occupation israélienne, ils avaient même leur propre quartier dans la ville, Harat al-Magharba. Mais malheureusement, seul leur zaouia, un édifice religieux musulman, existe encore. Entre les deux reportages, aussi nous invitant à écouter une ou plusieurs chansons selon le temps. Merci beaucoup, à bientôt.
Grand reportage nous emmène aujourd'hui à la rencontre des Palestiniens. Il y a ceux de Jérusalem-Est, ceux de Cisjordanie, les Palestiniens, citoyens d'Israël, surnommés également Arabes israéliens, et enfin les Gazaouis. Comment, au cours de l'histoire récente, ce peuple a été divisé, déplacé, chassé de sa terre? À travers des portraits croisés, quatre Palestiniens nous racontent leur quotidien sous occupation israélienne ou au sein de l'État hébreu. Quatre Palestiniens, une identité, c'est un grand reportage de Sami Bouhlifa.
Vendredi, Jérusalem-Est, esplanade des mosquées, troisième lieu saint de l'islam. La prière doit commencer dans une heure et demie à peu près et j'ai rendez-vous avec un Palestinien de Jérusalem-Est. Il s'appelle Shaker Zahtari. Shaker, que je vois, il est en train d'arriver. Marhaban, Oustad Shaker.
Salamat Aksami, kif halak?
Alhamdulillah. Shaker Zahtari, vous êtes Palestinien de Jérusalem-Est. Qu'est-ce que ça signifie exactement être Palestinien de Jérusalem-Est ?
Être Palestinien à Jérusalem, c'est être libre et indépendant.
Mais vous vivez quand même sous occupation. Moi, par exemple, aujourd'hui, pour rentrer sur l'esplanade des mosquées, et le vendredi encore plus, j'ai été soumis à deux contrôles d'identité. Il y a une dizaine de portes autour de l'esplanade des mosquées. Elles sont toutes contrôlées par la police, les forces de l'ordre israéliennes. Vous, par exemple, est-ce que vous êtes soumis aussi à ce genre de contrôle ?
Ma maison est à 5 minutes en voiture d'Al-Aqsa. Mais pour venir jusqu'ici le vendredi, je dois passer par 3 points de contrôle israéliens. Et à chaque fois, je dois présenter ma pièce d'identité, alors que les points de contrôle sont à 200 mètres les uns des autres.
En tant que Palestinien de Jérusalem-Est, vous avez quoi comme pièce d'identité ?
À première vue, notre pièce d'identité ressemble à celle de n'importe quel Israélien juif. Mais la nôtre ne fait pas de nous des citoyens, mais de simples résidents de Jérusalem. Ils ne nous considèrent pas comme des citoyens à part entière. Ce n'est qu'un titre de séjour qu'ils peuvent nous retirer quand ils le souhaitent.
Ça, c'est votre carte d'identité. En tant que Palestinien de Jérusalem-Est, vous avez un passeport jordanien temporaire.
Ce passeport ne fait pas non plus de nous des citoyens jordaniens. Il s'agit d'un simple document de voyage. Évidemment, tout cela est le fruit d'un accord entre Israël et la Jordanie. Par exemple, pour qu'on puisse voyager au départ de Ben Gurion, l'aéroport international d'Israël, nous devons disposer de deux documents. Le passeport jordanien temporaire et un laissez-passer, comme vous dites en français. Sans cela, impossible de quitter le pays.
Comment on vit sous occupation ?
Les Palestiniens de Jérusalem sont libres. Bien sûr, nous subissons les contrôles permanents, les arrestations. Mais croyez-moi, nous sommes les citoyens les plus libres du Moyen-Orient.
Comment ça se fait ? Kif ?
Les Israéliens prétendent que Jérusalem est la capitale de leur État. Dans ce cas-là, pourquoi ils ont besoin d'être escortés par leurs soldats pour venir ici, sur l'esplanade des mosquées ? En fait, en agissant de la sorte, ils reconnaissent implicitement qu'ils sont des colonisateurs. Si ce pays et cette terre sont vraiment les leurs, pourquoi ils ont peur de nous ? Moi, je n'ai pas peur d'eux. Je peux aller dans les villes israéliennes quand je veux. C'est ma terre, ce n'est pas la leur. S'ils vivent dans la peur, c'est qu'ils ont des choses à se reprocher. C'est mon avis.
La situation dans laquelle vous vivez vous convient parfaitement ou vous rêvez, par exemple, d'un État palestinien indépendant ?
Ça, c'est une question purement politique. Vous m'avez demandé si ma situation me convenait et je vous ai répondu que je me sentais libre. Je suis heureux de vivre ici. Je me sens en sécurité. Combien de fois êtes-vous venu ici à Al-Aqsa et vous m'avez trouvé en train de faire une sieste auprès d'un arbre ? Vraiment, je vis bien. Comment vous dites en français déjà ? Liberté, c'est bien ça ?
D'un point de vue économique, est-ce que vous avez les mêmes avantages, par exemple, que le reste des citoyens israéliens ?
Nous sommes égaux lorsqu'il s'agit de payer les impôts. Mais au sein de la société, ils nous considèrent comme des goyes, des non-juifs, des serviteurs. Malgré cela, nous vivons bien ici. Nous faisons partie d'une classe moyenne qui vit décemment. J'ai beaucoup voyagé à l'étranger, et notamment dans les pays arabes. La Syrie, l'Irak, la Jordanie, l'Arabie Saoudite. Là-bas, les gens sont soit très riches, soit extrêmement pauvres. Et ça, ça fait toute la différence.
Merci beaucoup, Stachak.
Je suis Manal Shker, je suis palestinienne de Cisjordanie, militante au sein de l'ONG Stop the Wall.
Stop the Wall Campaign.
Manal, nous sommes ici au pied du mur de séparation entre Israël et les territoires palestiniens. Manal, comment on grandit à l'ombre de ce mur de séparation ?
C'est très difficile. Ce mur nous empêche de nous déplacer librement. Il nous coupe totalement de Jérusalem. Actuellement, nous sommes à Bir Nabala. Ce village fait partie d'un ensemble de 22 localités qui ont été coupées de Jérusalem après la construction du mur. C'était l'un des plus importants nettoyages ethniques à Jérusalem. Environ 200 000 personnes ont été coupées de Jérusalem.
Littéralement, on est au pied du mur. C'est un mur de béton qui fait 8 mètres de haut, qui fait aussi quasiment 700 km de long. Il a été construit durant la seconde intifada, donc au début des années 2000, et il est toujours en cours de construction. Comment, en tant que jeune Palestinien, on imagine la vie de l'autre côté ?
C'est dur d'imaginer quoi que ce soit. Vous l'avez dit, ce mur fait 8 mètres de haut, il nous bouche l'horizon. Je rêve d'aller à Jérusalem. J'y suis allée une seule et unique fois quand j'avais 7 ans. C'était avant la seconde intifada. Depuis, j'ai demandé des laissez-passer aux Israéliens, mais ce n'est pas facile de les obtenir. Nous sommes coupés de nos proches qui vivent là-bas. Et d'un point de vue culturel, nous sommes privés de Jérusalem, qui est le centre historique de la Palestine. Les Israéliens nous ont divisés, fragmentés pour étendre leur colonie.
Vous avez parlé de fragmentation de la population palestinienne. Vous pensez qu'Israël tire pleinement profit de cette fragmentation ?
Évidemment, comme tous les colonisateurs, ils divisent pour mieux régner. Lorsque l'on est fragmenté, on perd notre force collective. Lorsque moi, mes préoccupations à Ramallah sont différentes de celles des Palestiniens de Jérusalem, comment peut-on s'unir autour d'une seule cause ?
Beaucoup d'ONG israéliennes ont publié des rapports cette année qualifiant la politique de l'État hébreu dans les territoires palestiniens comme une politique d'apartheid. Est-ce que vous partagez cette vision ?
Bien sûr, en tant que palestinienne, ma présence dans certains endroits de Cisjordanie constitue un crime et donne le droit aux Israéliens de m'abattre. C'est la discrimination raciale. En parallèle, les Israéliens, eux, se déplacent librement. Ils disposent d'un immense réseau routier qui leur est réservé. La discrimination raciale est au service de l'expansion coloniale israélienne.
Sur le mur en face de nous, il y a écrit en anglais « Hitler est mort, vous êtes né » et on voit dessiner une étoile de David, donc symbole de l'État hébreu, égale croix gammée, donc une croix gammée nazie. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je suis parfaitement d'accord avec ça. Israël est fondé sur l'injustice, exactement comme l'était le régime nazi. Les nazis persécutaient les juifs parce qu'ils appartenaient à cette ethnie et à cette religion. Et c'est exactement ce que les Israéliens nous font aujourd'hui.
En tant que palestinienne de Cisjordanie, est-ce que vous pensez que deux États, un État palestinien et un État israélien, peuvent cohabiter ? C'est la solution qui est prônée par la communauté internationale, l'existence de deux États côte à côte.
Je suis contre la solution à deux États, car elle ne prend pas en compte notre droit au retour sur nos terres. Israël a été fondé sur le territoire palestinien en 1948. 500 villes et villages ont été vidés de leur population à l'époque. C'était un nettoyage ethnique. Alors qu'on ne me parle pas de cohabitation pacifique, je ne peux pas cohabiter avec quelqu'un qui nie mon existence.
Vous avez quel âge, Manel ? Comment vous ?
J'ai 28 ans.
Est-ce que vous pensez que des Israéliens de votre âge qui vivent de l'autre côté de ce mur savent dans quelles conditions vous vivez, vous, ici ?
Non, ils leur lavent le cerveau dès leur plus jeune âge. On leur apprend à l'école que le Palestinien est leur ennemi. Personne ne leur dit qu'en réalité, le Palestinien est celui dont ils ont confisqué la terre et qu'ils persécutent. Ils nous diabolisent, aussi bien dans leurs médias que via leur système éducatif. L'Israélien est programmé pour déshumaniser le Palestinien. Et au final, il a un droit de vie ou de mort sur nous. Bien sûr, je ne veux pas faire de généralité, il y a parmi eux une minorité consciente de nos souffrances et qui souhaite la paix. Mais même cela devrait mieux comprendre nos revendications.
Merci beaucoup, Manal.
Je m'appelle Rassan Mier, je suis l'attaché parlementaire du député Sami Abou Shahada. Nous sommes ici à la Knesset, le Parlement israélien. Allons à la cafétéria.
D'abord, je voudrais justement revenir sur la terminologie. Est-ce qu'on dit arabe israélien ou on dit palestinien israélien ?
Nous ne sommes pas les Arabes d'Israël, nous sommes des Palestiniens, citoyens de l'État d'Israël. La citoyenneté nous a été imposée et nous l'avons acceptée pour survivre. Il n'y a aucune différence entre nous et les Palestiniens de Cisjordanie, de Gaza ou encore les Palestiniens réfugiés dans les pays voisins. J'ai d'ailleurs de la famille à Ramallah, nous sommes Palestiniens de père en fils, citoyens de l'État d'Israël.
L'État d'Israël compte aujourd'hui 9 millions d'habitants. Quelle est la proportion de Palestiniens au sein de l'État d'Israël, donc qui ont la nationalité israélienne?
Nous représentons 20% de la population israélienne, soit environ 1 700 000 personnes.
D'un point de vue politique et électoral, vous avez sans doute un poids et un rôle à jouer.
Excusez-moi un instant.
Shalom.
Il y a le téléphone qui a sonné et vous avez décroché cet appel. Vous parlez très bien hébreu.
Oui, l'arabe et l'hébreu sont mes langues maternelles. Qu'est-ce qu'on disait déjà? Ah oui, dans n'importe quel autre pays. Lorsqu'un groupe d'individus représente 20% de la population, ce groupe peut peser sur la scène politique. Mais pas ici. Ici, on peut par exemple proposer un projet de loi et les juifs s'y opposeront par principe, parce que des arabes ont présenté ce projet de loi.
Vous avez un passeport israélien. Est-ce que dans votre vie de tous les jours, dans votre quotidien, vous sentez que vous avez les mêmes droits et les mêmes responsabilités qu'un citoyen israélien juif?
Bien sûr que non, il y a des discriminations dans tous les secteurs.
Par exemple,
pour un même crime commis, un arabe israélien écopera d'une peine de prison un tiers plus longue que la condamnation d'un juif israélien. Chaque année, l'État investit 8000 euros pour chaque étudiant juif, mais seulement 5000 euros pour l'arabe. Dans les écoles, ils nous obligent à apprendre l'histoire juive et nous interdisent d'étudier notre propre histoire palestinienne.
Ils veulent gommer votre identité.
Évidemment, lors de la création de l'État hébreu, ils ont rayé nos villages de la carte. Mosquées, églises, cimetières, ils ont tout rasé. La vieille ville de Lod ressemblait à la vieille ville de Jérusalem et ils l'ont entièrement détruite. Et c'est pareil dans tous les domaines. Israël a développé un réseau de chemins de fer. Pas une seule ville arabe israélienne n'est desservie par le train. Pourquoi font-ils ça ?
Vous, en tant que Palestinien israélien, votre allégeance... Enfin, vous faites allégeance à l'État hébreu ou plutôt à la cause palestinienne?
Notre situation est très délicate. Moi, je suis loyal envers mon peuple. Je suis palestinien et une partie de mon peuple vit sous occupation en Cisjordanie. Une autre partie vit sous blocus et sous les bombes à Gaza. Et une partie encore, comme ma tante et mes cousins, vit en exil en Jordanie. Et moi, je suis citoyen de l'État qui les persécute.
Mais est-ce que vous pensez que Israël tire pleinement profit de cette situation dans laquelle se trouvent les Palestiniens, à savoir quatre catégories différentes entre Palestiniens israéliens, Palestiniens de Cisjordanie, Palestiniens de Jérusalem-Est et Palestiniens de Gaza?
Israël divise pour mieux régner.
Qu'est-ce que vous répondez aux Israéliens qui vous disent, vous, en tant que Palestinien d'Israël, vous acceptez de prendre les avantages économiques de notre pays, de l'État hébreu, mais pas le reste? Vous n'êtes pas avec nous dans un pacte social.
C'est faux, je suis citoyen israélien et je respecte les lois de ce pays, mais c'est cet État qui fait tout ce qui est en son pouvoir pour me discriminer. Ils nous disent « comparez vos conditions de vie avec celles des Gazaouis, des Syriens, des Jordaniens, grâce à nous, vous vivez tellement mieux qu'eux ». Dans ce pays, nous aussi nous payons des impôts, au même titre que les Juifs. Par contre, lorsqu'il s'agit de redistribuer les richesses, il n'y a que les Juifs qui en profitent. Donc, dans la mesure du possible, je lutterai toujours pour mes droits.
Merci beaucoup. Shukran ktir.
L'afou, merci beaucoup. Laka ou la kul.
Merci à vous. J'espère que mon message sera entendu.
Je m'appelle Randa Harara. J'ai 25 ans. Je suis palestinienne de Gaza.
Nous sommes ici sur la plage à Gaza. Cet endroit, qu'est-ce qu'il représente pour vous, Randa?
Pour moi, c'est la vie. La plage, c'est notre seul échappatoire. La mer est le seul ami du Palestinien de Gaza.
La bande de Gaza, c'est un territoire qui fait 55 km à peu près du nord au sud et une douzaine de kilomètres de large. Qu'est-ce que ça fait de grandir dans un territoire aussi restreint ?
Personne au monde ne peut imaginer ce que c'est de vivre et de grandir ici. Guerre, occupation et blocus israélien, ça nous plombe dès le début de notre vie.
Vous êtes né en 1996, une dizaine d'années plus tard, il y a eu le double blocus israélien et égyptien qui a été imposé à la bande de Gaza. Êtes-vous déjà sorti de la bande de Gaza ?
Bien sûr que non. Tout le monde ici rêve de pouvoir voyager librement. Mais bon, je crois que nous sommes condamnés à découvrir le monde via les réseaux sociaux, seulement en photo. Moi, je suis originaire de Haïfa. Quand je vois sur Internet les photos de cette ville magnifique, je suis tellement émue. Pourquoi n'ai-je pas le droit d'y aller ? Ça paraît bête, mais chaque Palestinien devrait pouvoir y aller.
Vous dites que vous êtes originaire de Haïfa. Haïfa, aujourd'hui, est une ville israélienne. Près de 70% ou même plus des habitants de Gaza sont des réfugiés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait pourquoi vous êtes des réfugiés justement ?
Parce que nous avons été chassés de nos terres sur lesquelles a été fondé l'État d'Israël et nous voulons y retourner.
Quand on est ici sur la plage et on voit l'horizon au loin, Israël un peu plus au nord, vous personnellement, comment vous imaginez ces territoires ? Comment vous imaginez le monde extérieur ?
Je rêve de pouvoir me balader librement en Cisjordanie. Je me dis qu'en fait, la vie pourrait être belle, mais ensuite je réalise que mon destin, c'est d'être enfermé ici. Alors souvent, je laisse mon imagination prendre le dessus.
Comment vous imaginez les jeunes Israéliens de votre âge ? Quelle est votre vision par rapport à eux ?
Je sais qu'ils nous considèrent comme des moins que rien. Et pourtant, notre cause est juste. La Palestine nous appartient et ce n'est pas la terre des Israéliens. Ils finiront par partir.
Par la force des choses, l'histoire, les guerres, les différentes décisions politiques ont fait qu'aujourd'hui il y ait 4 catégories de population palestinienne. Il y a les Palestiniens de Jérusalem-Est, ceux de Cisjordanie, ceux d'Israël et il y a les Gazaouis. Qu'est-ce qui vous rassemble avec tous ces autres Palestiniens ?
Le drapeau de la Palestine et la cause palestinienne nous rassemblent. C'est vrai, nous sommes complètement fragmentés. Nous vivons dans des réalités différentes, mais nous défendons tous la cause palestinienne.
Vous pensez que tous les Palestiniens, qu'ils soient en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, en Israël et ici à Gaza, sont solidaires ?
Oui, on n'a pas le choix. Nous devons nous sentir palestiniens. Nous devons croire en notre cause. Seule notre union fera notre force.
Merci beaucoup.
Quatre Palestiniens, une identité, un grand reportage de Sami Boukhalifa, réalisation Pauline Leduc.
على ديني على أرض تلاقيني أنا نهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني
على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني
pour tous les cœurs, les cœurs qui crient Palestine. C'est une chanson d'espoir, d'espoir. Ya Allah e Kerim.
Ya Allah e Kerim.
C'est une chanson d'un enfant qui pleure Palestine. C'est une chanson pour une femme qui meurt dans la ville. C'est une chanson pour un homme qui cherche le slim. C'est une chanson
لكن في قلبي قلبي عليك حزين والروح عليك تغني والدمع تملى العين حبك ساكن في قلبي وقلبي عليك حزين والروح عليك تغني والدمع تملى العين
ساكن في قلبي وقلبي عليك حزين والروح عليك تغني والدمع تملى العين
d'espoir, ya Allah, ya Kerim.
Omar.
Je suis Omran Omar. À l'origine, mon nom de famille était Mogra, maghrébin en arabe. Mon père a renoncé lors de la guerre de 1967 et l'a remplacé par Omar, de peur que les juifs nous expulsent du Maroc ou l'Algérie.
RFI, grand voyage.
Grand reportage nous emmène aujourd'hui à Jérusalem pour un voyage à travers de l'an 1187 dans les croisades jusqu'à récemment 1967 et la conquête de la ville sainte par Israël. Près de 800 ans d'histoire, une période marquée par la présence de maghrébins à Jérusalem, des musulmans ou des combattants venus d'Afrique du Nord pour grossir les troupes de Saladin et reprendre la ville aux croisés. Descendants marocains, algériens et tunisiens vivaient toujours à Jérusalem. Avant l'occupation israélienne, ils avaient même leur propre quartier dans la ville, Seul leur zawiya, un édifice religieusement, existe toujours. Jérusalem, des terres arabes en Orient, c'est un grand reportage de Sami Boukhelifa.
Vieille ville de Jérusalem, je suis avec Vincent Lemire, historien français, également directeur du CRFJ. Vous venez de publier un livre intitulé « Au pied du mur » et « Mort du quartier maghrébin de Jérusalem 1987-1967 ». Alors, au pied du mur, on y est. Littéralement, c'est le mur occidental, appelé également le mur des Lamentations ou Kotel. Si le mur se trouve en face, où est passé le quartier maghrébin ?
Sous nos pieds. On est littéralement, on marche dessus, comme tous les visiteurs. Et comme c'est le cas depuis 55 ans, hein, depuis 1967. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a des travaux derrière. Être 1m50 de son défait, on voit très très clairement le quartier maghrébin si on jette un derrière les palissades.
Qu'est-ce qui s'est passé en 1967 exactement ici ?
Dans la nuit du 10 au 11 1967, donc quelques heures après la fin de la guerre des six jours, près 800 habitants du quartier maghrébin qui sur ce périmètre-là, littéralement sur à l'endroit de cette esplanade, ces 800 habitants ont été expulsés. Ils n'ont rien pu emmener avec eux. Et le quartier dans la nuit, c'est-à-dire que le dimanche 11 matin, le quartier maghrébin a disparu. Ce quartier qui avait 800 ans d'histoire a été détruit en une nuit.
Officiellement, la version israélienne hébreu n'a rien à voir dans la destruction du quartier. Vous, dans votre livre, vous apportez le contraire.
Et effectivement, j'ai trois documents. Que l'opération avait été planifiée, coordonnée, anticipée par les autorités israéliennes. On a notamment le PV d'une réunion entre Teddy Kollek, le maire de Jérusalem, et Ouzine Arki, commandant militaire de la zone de Jérusalem. Donc c'est une réunion c'est une réunion du 9 juin, 36 heures avant la destruction du quartier. Et le PV liste en fait les décisions urgentes et les actions urgentes à prendre dès la conquête de la ville. Et le troisième point, c'est le quartier maghrébin.
Était l'objectif derrière la destruction du quartier des Maghrébins?
L'objectif, c'est un objectif qui remonte loin, qui remonte à peu près à la fin du 19e siècle. Un espace de prière plus vaste, celui qu'on voit, de prière plus vaste pour les fidèles qui viennent prier devant le mur occidental, le Kotel Amaravi. Il faut dire que jusqu'en 1960, on ne pouvait accéder à cette portion hérodien que par un couloir de 20 mètres de large, d'une vingtaine de mètres de long. Effectivement extrêmement contraignant en termes de, y compris en termes d'espace public, en termes de à l'ordre public. Donc voilà, il y a un problème à la fois religieux, puis un problème d'urbanisme qui faisait que effectivement les leaders sionistes, puis les autorités israéliennes, depuis plusieurs années, avaient ce projet en tête.
Voilà pour l'histoire. L'histoire de ce quartier, elle commence quand exactement le quartier des Maghrébins à le jour ?
Le quartier maghrébin de Jérusalem, il voit en 1187, enfin dans les années qui suivent immédiatement la reconquête de Jérusalem par Saladin. Donc il a une origine extrêmement prestigieuse. Saladin, très très importante dans la mémoire collective de Jérusalem. Et Saladin récupère la ville sur la ville est dépeuplée, désurbanisée, toutes ses marges, et notamment cette marge sud, on a une vieille ville ici. Et donc il faut réurbaniser, la réislamiser. Et pour la réislamiser, les pèlerins musulmans et notamment qui viennent de très loin et donc notamment les maghrébins. Il faut effectivement se mettre dans le contexte. Le pèlerinage vers la Mecque au Moyen-Âge, c'est pas quelques heures d'avion, c'est plusieurs mois de voyage et on arrive généralement à Jaffa, on monte à pied et on visite Hébron et Jérusalem qui sont considérés comme des visites pieuses. En fait, on se en état de pureté et de pèlerinage, de gagner la Mecque. Et puis on peut aussi retourner au chemin du retour. Donc bref, il est là pour rendre ce voyage possible, tout simplement, pour les habitants du pour les musulmans du Maghreb, qui ont besoin, quand ils sont à Jérusalem, de se loger, de se nourrir, d'être besoin d'être secouru, comme on dit.
Et alors, tout cela a été rendu possible par un décret dans l'islam, qui est un waqf. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement, et ce waqf, le quartier maghrébin de Jérusalem, se nomme le waqf. Qui est ce personnage historique?
C'est un mystique soufi extrêmement prestigieux. Il est d'origine andalou et enterré en Algérie aujourd'hui, à Tlemcen. Même les gens qui ne connaissent pas bien l'histoire islamique peuvent comprendre que Sidi Abou Médiène, c'est un majeur. C'est lui qui a donné son nom au président Abou Médiène, le premier président de la République algérienne. Là, c'est un personnage historique majeur. C'est effectivement représentant en fait courant mystique soufi et qui va ensuite ici à Jérusalem. Et Abou Médiène, en fait, il participe à la reconquête de la ville, et Saladin non seulement lui accorde cette parcelle de terrain pour en faire un lieu d'accueil pour les pèlerins maghrébins, mais, et c'est ça qui fonde le waqf Abou Médiène, le village de Ayn Karem. Ayn Karem, c'est un des villages les plus de Jérusalem. Il se situe à peu près à l'ouest des murailles de la vieille ville. Extrêmement riche, il y a beaucoup d'eau, il y a des sols riches, y compris quand on le visite, on s'en rend compte. Et donc, Abou Médiène, en fait, va bénéficier des revenus fonciers du village de Ayn Karem en 1948, puisqu'en 1948, se retrouve à l'ouest de la ligne verte, et donc, elle et ses habitants, ses fermiers sont expulsés, et donc ses revenus fonciers et agricoles sont taris pour le waqf.
Un waqf dans l'islam, c'est un bien ou un ensemble de biens qu'on considère comme gelés, littéralement. C'est immuable, ils ne peuvent être ni vendus ni cédés sous aucun prétexte, et le waqf Abou Médiène était justement dans cette configuration. On ne pouvait y toucher qu'en étant finalement.
Oui, un waqf, c'est un ensemble de biens, ce qu'on appelle inaliénables. Pour nos auditeurs, dans le contexte français, c'est ce qu'on appelle un bien de main morte, ou tout simplement une fondation. On a en France, en Europe, des fondations. Une fondation, c'est on met à disposition un certain nombre d'actifs. Ça peut être des actifs immobiliers, des actifs financiers. Et ils ont une fondation. Et pendant plusieurs siècles, ils vont servir à quelque chose. Ils vont servir à l'éducation, ou ils vont servir à l'entretien d'une école, ou à l'entretien une fontaine publique, ou, en l'occurrence, pour l'Occident, à l'accueil des pèlerins maghrébins à Jérusalem. Effectivement, des biens inaliénables, incessibles, par aucun moyen. Enfin, c'est vraiment le cadre le plus puissant en droit islamique. C'est d'ailleurs un cadre qui permet aux une certaine résistance dans des biens immobiliers et des propriétaires en Palestine, dans le contexte de la.
Et toute cette histoire des maghrébins de donc qui viennent de l'actuel Maroc, de l'actuelle Algérie, de l'actuelle Tunisie, il y a même certaines familles libyennes, elle va se poursuivre pendant 12 ans. À ce moment-là, où on en est exactement de la présence juive dans le quartier des Maghrébins, puisque le mur des lamentations est un dessin dans le judaïsme, à quel moment il est sanctuarisé en tant que lieu central et spirituel du judaïsme?
Oui, ça c'est effectivement quelque chose d'assez curieux. Le quartier maghrébin, donc, il est fondé à la fin du siècle. Et le mur occidental n'est un sanctuaire pour les juifs de Jérusalem qu'au XVIe siècle. Jusqu'au XVIe siècle, les communautés de Jérusalem priaient plus généralement au sommet du mur. Et puis, au milieu du XVIe siècle, on ne sait pas exactement pourquoi, cette partie du mur, cette partie qu'on a sous les yeux, qui est devant nous, devient un sanctuaire. Et ensuite, ça ne va pas passer jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est assez curieux, c'est que effectivement, il récupère le nom d'une institution juive qui était le mur occidental qui aurait survécu à la destruction du temple, donc le Kotel. Or, effectivement, depuis plus de 300 ans, vivaient ici des Maghrébins, c'est-à-dire littéralement des Occidentaux, c'est-à-dire des Hébreux, des Maharavim. La question qui se pose, c'est est-ce que ce mur, qui a aussi son histoire islamique, on l'appelle Al-Bourak en islam, est-ce que ce mur ne s'est pas appelé auparavant le Kotel Ravim, c'est-à-dire le mur des Occidentaux, le mur.
En 1960, certains ont quitté complètement Jérusalem en Jordanie, comme d'ailleurs. Il y en a qui sont réfugiés donc un peu plus au nord, à Shuafat et dans d'autres quartiers de Nina. Et il y en a toujours qui vivent ici, à Maghribia, donc qui au fond en fait de cette promenade. Et on va poursuivre donc ce en allant à la rencontre de ces Maghrébins de Jérusalem, des descendants des Marocains, Algériens, Tunisiens, toujours très attachés à leur Maghreb. Merci beaucoup Vincent Lemire.
Merci.
Il est en haut. Suivez-moi. C'est mon oncle. Il est peut-être sorti. Il est là, venez. Mon oncle, vous avez de...
Salam alaikum.
Bonjour.
Omar.
Je suis Omar. À l'origine, mon nom de famille est Moghrabi, maghrébin en arabe. Mon père a renoncé à ce nom lors de la guerre de 1965, placé par Omar, de peur que les juifs ne fussent vers le Maroc ou l'Algérie.
Et donc, vous habitez ici?
Oui,
je suis né ici, dans ce cas.
En quelle année?
En 50.
Et donc, lorsque vous êtes né, le quartier des Maghrébins, toujours?
A été détruit en 1967, je m'en rappelle bien. Mon père était sorti pour voir les soldats israéliens et leur demander ce qu'ils étaient en train de faire. Ils lui ont dit, retournez vous coucher et ne vous inquiétez pas. Et puis ils ont commencé à démolir la maison voisine, plus haute que la nôtre. Des pierres ont alors commencé sur notre toit, sur les chambres où nous dormons.
Qui est originaire de votre famille?
Nous sommes algériens, originaires du village de Bekaria, Tébessa. C'est à la frontière entre l'Algérie.
Alors, on enlève les chaussures avant de rentrer. Ici, c'est une salle de prière ou une véritable mosquée?
C'est une salle de prière. Les habitants de la Zaouïa.
Donc dans cette salle de prière se trouve une relique.
Abou Madian.
C'est la main d'Abou Madian Mohamed Chouayeb et le Wakf maghrébin. C'est un Algérien maghrébin et c'est pour ça qu'on dit que le Wakf est maghrébin. On raconte que près de la porte des Maghrébins.
Alors on y va. Pièce.
Combattait pour la reconquête de Jérusalem, il a perdu. Il l'a alors enterré ici. Saladin lui a offert tout ce quartier et en Wakf jusqu'à la fin des temps. Je suis très fier de mes origines algériennes. Mais malheureusement, je vous le dis en toute honnêteté, l'Algérie ne fait rien pour cet héritage. Les Marocains ont des liens avec les autorités marocaines. Nous, les Algériens, on est complètement oubliés. Tout ça appartient à l'Algérie. J'espère que les autorités finiront par prendre conscience que des Algériens vivent ici.
Combien de familles maghrébines vivent ici encore dans la Zaouïa?
Alors, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six. Six familles.
Hadja Aïcha est en
haut. Oui, elle habite en haut, mais je ne sais pas si elle est là.
Je m'appelle Aïcha. Ahmed. Mohamed Maslouhi Moghrabi. Je suis d'origine marocaine. J'ai les mêmes gènes que les combattants maghrébins venus ici il y a plus de 800 ans. Une partie de ces combattants ne sont jamais retournés en Afrique du Nord. Ils sont originaires d'Algérie, de Tunisie et du Maroc. On parlait alors du Maghreb arabe ou d'Afrique du Nord. Je suis née dans le quartier des Maghrébins en 1946. C'est un quartier plein de vie et très prospère, comme une grande famille.
Trouvez votre maison.
Vous voyez ce poste de contrôle de la police? Elle est grande maison. Maintenant, quand je passe à côté de son ancienne enfant, je pleure à chaudes larmes. Comment vous expliquez? Vous voyez l'esplanade au pied du mur, nos maisons collées les unes aux autres. On avait l'impression que c'était de toutes petites maisons, mais elles avaient 3, 4 pièces, un quartier plein où habitaient 1200 personnes, 120
Et à l'époque, les Juifs venaient prier au mur des...
Mère, paix à son âme, nous racontait que des Juifs âgés venaient prier ici. C'était avant 1948. Durant les années 30, les Juifs n'étaient pas nombreux en Palestine. Donc, ces vieux Juifs venaient dans le respect le plus total prier ici. Parfois, ils demandaient même l'autorisation des habitants du quartier. Ils allaient au mur, priaient et repartaient. Ma mère disait que les Juifs et musulmans étaient bons voisins. C'est le mouvement qui a ruiné les relations entre Juifs et musulmans. Ils ont commencé à s'accaparer nos terres. Avant, nous vivions en paix. Toutes les religions étaient ici. C'est la politique qui a tout ruiné. Récemment, j'étais au Maroc. Je leur ai dit ce que je pensais de la normalisation des relations entre Israël et le Maroc. Cette normalisation n'était pas nécessaire. Elle profite uniquement à Israël. Le Maroc a au cadeau aux Israéliens. Je suis fière de mes racines marocaines. Je suis marocaine. Mais ici, dans la Zaouïa, vous trouverez des familles tunisiennes et algériennes. Mais nous, les Marocains, sommes pas.
Ashraf Djandoubi al-Mughrabi.
Djandoubi al-Mughrabi. Je suis Djandouba en Tunisie. Je suis du conseil du Waqf maghrébin de Jérusalem. Palestine. Nous avons créé le Conseil des familles maghrébines de Jérusalem, algériens, tunisiens et libyens. Nous avons institué une commission pour la protection de l'héritage maghrébin. Nous sommes trois personnes dans cette commission à Jérusalem et en Palestine. Il y a Jamel El-Moghrabi, le Ahmed Salem, l'Algérien, et votre humble Ashraf El-Jandoubi de Djandouba en
Tunisie.
Comment fait-on pour protéger un pays de 100 ans lorsqu'on vit sous occupation ?
Tous les Maghrébins sont les propriétaires de biens à Jérusalem. Entre Maghrébins qui ont combattu les croisés, comptaient quasiment un quart des troupes de Saladin. La terre est gorgée de sang maghrébin. Le Waqf de Abou Medien est très grand et au village de Ein Karem, près de Jérusalem. Là-bas, nous avons 15 hectares de terre qui ont été propriétés. Je ne parle pas des Maghrébins en particulier, mais ils doivent tous comprendre qu'ils ont un héritage. Notre présence ici est une forme de résistance. Les pays du Maghreb doivent tout faire pour un héritage à Jérusalem. Nous attendons. J'espère que cela se concrétisera.
Jérusalem, terre maghrébine en Orient, un grand reportage de Sami Boukhelifa, réalisation Le Duc.